Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC bascule en mode warm-up. On termine ce premier triple header de la saison en Arabie Saoudite à Jeddah, après Suzuka au Japon, après Bahreïn la semaine dernière. La F1 qui fait escale pour cette cinquième manche du championnat en Arabie Saoudite. Il s'est passé énormément de choses à Bahreïn la semaine dernière. Vous avez d'ailleurs le podcast qui est bien évidemment encore dispo. Hein, ça fait que 3 jours qu'il est en ligne, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, à le noter. Également, on revient sur la victoire d'Oscar Piastri. Est-ce que c'est pas le moment d'ailleurs d'inverser le rôle de leader là, Lando Norris qui passe numéro 2 et Piastri numéro 1, on en a parlé lundi dernier, donc allez consommer ce podcast si vous ne l'avez pas encore fait. Les ingénieurs du paddock qui travaillent, alors là ils travaillent jour et nuit parce que 3 semaines de F1 non-stop là les gars, ils ont la tête grosse comme un caisson. Julien Absalon et Louis Gerbier, salut les gars.
Salut
tout le monde, on est sur les rotules.
Non mais je me dis que déjà nous, franchement, faire des podcasts 2 fois par semaine c'est long. Alors imagine les mecs qui bossent là sur les voitures, ils ont des staffs de mutants, mais 3 semaines comme ça de compète, ça doit être un enchaînement infernal pour eux.
C'est un vrai sujet hein, et ça grince un peu des dents pour le coup dans le paddock, ça fait quelques années. Mais bon, et il y a aussi ceux qui disent non mais ça va, ils sont privilégiés, ils travaillent en F1.
Oui bien sûr, voilà. Ça c'est comme
c'est un
comme
métier passion.
C'est comme nous quand on dit qu'on travaille et qu'on dit bah ça va, tu vas commenter un match. Oui
c'est ça.
C'est parti les gars pour ce warm-up du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Grand Prix d'Arabie Saoudite qui est un tracé encore différent de ce que la Formule 1 proposait la semaine dernière à Bahreïn, encore différent de Suzuka. On en parlait un peu là en off. On ne sait pas trop quoi penser de ce circuit. C'est pas la piste la plus attractive de la saison et qui fait le plus rêver les pilotes, mais malgré tout, il y a des choses intéressantes.
Non, mais c'est pas inintéressant. C'est complètement en ville, tracé urbain, qui peut faire penser à Singapour, mais pas complètement. Assez long. C'est le circuit où il y a le plus de virages dans la saison. C'est 27 virages, voilà. 6 km 1. Non mais en fait c'est aussi du coup on se dit c'est très dur, très difficile de dépasser il y a des murs absolument partout, logique c'est en ville, du coup c'est il y a tout un safety car. Moi j'avoue que je suis perplexe, je suis pas contre ni pour, mais en tout cas
bien au contraire.
Voilà, c'est puis surtout ouais, et puis il y a la question en plus avec les grosses monoplaces actuelles, c'est un peu on se demande qu'est-ce qu'elles font là quoi.
Il y aura moins de dépassements.
C'est vrai qu'il y a un truc qui est marrant, c'est que ce circuit il est hyper récent. Tu vois, parfois on se dit les voitures sont trop grosses pour les circuits historiques, mais lui il est complètement récent, donc pourquoi l'avoir fait si étroit quoi,
c'est ça.
2021, le premier Grand Prix d'Arabie Saoudite, hein, donc c'est vrai que c'est récent. Doublé Red Bull l'année dernière avec la victoire de Verstappen, et puis c'est Sergio Perez qui s'était imposé là-bas. Elle est loin, elle semble très très loin, la victoire de Sergio Perez en Formule 1 2023-2022. Je vous donne quand même un peu les temps forts du week-end, hein, ce sera à suivre sur RMC. Première séance d'essai libre demain à 15h30, la deuxième à 19h. Les qualifs samedi à partir de 19h avec Jean-Luc Roy et la course dimanche 19h. Voilà, ça c'est pour les temps forts du week-end. Et un petit mot sur la météo, il va faire encore 30 degrés, zéro risque de pluie, donc ça va être encore la fameuse question de comment gérer ces pneumatiques avec cette chaleur et gérer la dégradation. Julien, là pour c'est un peu ça l'enjeu du week-end, hein, comme toutes les semaines,
oui c'est vrai que c'est un peu le cas toutes les semaines, mais là alors je crois que c'est quand même plus uniforme sur le côté sur de la température de piste et de l'air tout au long du week-end, donc je crois que les écuries vont y voir plus clair justement, mais bien sûr ça a été l'enjeu à Bahreïn et ce le sera aussi en Arabie Saoudite, c'est un tracé urbain donc forcément.
Qu'est-ce que vous voyez là un peu là pour ce Grand Prix Louis d'Arabie Saoudite? On a quand même de vraies interrogations. On va se pencher un peu plus en longueur là sur le cas Red Bull parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties depuis le Grand Prix de Bahreïn là. Christian Horner dans la presse, Helmut Marko, il y a Max Verstappen. Et je vous rappelle qu'on enregistre ce podcast le jeudi là, qui est actuellement en conférence de presse. Donc on va avoir des news en direct dans le podcast et on va relayer les propos de Verstappen qu'on annonce un peu partant. Plus que jamais. Mais j'ai l'impression que dès qu'il y a une course où Verstappen n'y arrive pas, son entourage fait fuiter des rumeurs comme quoi il va quitter l'écurie. Sinon, comment tu sens un petit peu les différents rapports de force là qu'on va avoir ce week-end, Louis?
Alors premièrement sur Verstappen, je pense que lui il va être très intéressant à suivre ce week-end puisqu'on se rappelle de son fameux tour qui, à part sur la dernière épingle où il a perd, il avait sorti un tour incroyable et là-bas, il roule très vite. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire avec une voiture bien inférieure, mais avec son talent sur un circuit où il a déjà montré qu'il savait, rouler très vite là-bas. Et après, dans les rapports de force, Ferrari doit réagir et McLaren doit en soi, enfin McLaren doit continuer.
Tu sais que
et
j'ai failli
revenir.
Proposer, non mais j'ai failli proposer un débat Ferrari là en disant est-ce que Ferrari est en train de faire le début de saison le plus décevant de son histoire. Je me suis dit c'est peut-être un peu tôt quand même pour le poser au bout du quatrième ouais. Grand Prix.
Ouais, mais, mais garde-le au chaud quand même.
Mais je vais le garder au chaud parce que s'il y a foirade, peut-être que lundi, on va se pencher dessus. Mais c'est vrai que Ferrari doit absolument la montrer des choses.
Ça me paraît. C'est une écurie qui a trop, si tu veux, il y a trop d'attentes, de pression cette année particulièrement. On le dit à chaque fois pourquoi. Ils nous vendaient une voiture compétitive, ils recrutaient un 7 fois champion du monde. Tu te dis, là, il y a zéro podium pour le moment, c'est pas normal. Et là, va falloir réagir vite.
Il y a eu la course sprint,
bien sûr, qui est une espèce de mirage dans le désert, parce que vraiment, à part ça, ça a été quand même à chaque fois plus que compliqué. C'est moyenasse pour quand tu jouais le titre au mois de mars, tu veux.
Le début est poussif, mais il y a le nouveau plancher qui a été apporté, il y a quand même. Des améliorations en cours, et en fait justement c'est là ils essayent de savoir si ils vont dans la bonne direction, parce qu'effectivement c'est un peu tout se joue maintenant. On sait que parfois il y a des saisons qui en fait basculent au premier gros développement, au premier nouveau kit, et en vrai ils se sont un peu, en fait au début à Bahreïn on se disait oh là là peut-être que ça va être la catastrophe, et ils se sont quand même un peu rassurés sans doute avec effectivement l'aide de la safety car, mais oui, il faut rester sur une pente ascendante, même s'il n'y a pas podium, tu vois, en Arabie Saoudite.
Dans les quatre top teams, là, c'est vraiment...
C'est ceux qui ont plus la pression du week-end.
Ouais, c'est ceux qui ont le plus la pression, ça oui, mais j'allais dire que c'est peut-être la plus grosse déception. Peut-être avec Norris, d'ailleurs, je ne sais pas. Ouais, mais en tout cas, on en attendait tellement plus que c'est vrai que dans les différents top teams, là, on se dit que c'est vraiment Ferrari le gros point noir depuis le début de saison.
Norris et Ferrari, pour moi, je les mets exactement dans le même panier, ce panier des déceptions du début de saison et du va falloir un électrochoc et réagir, sinon ça sera plus qu'une déception, ce sera un vrai échec, tu vois, ça sera Norris, ça lui coûtera peut-être sûrement plus cher que Ferrari.
Ah oui, non, mais là où je nuance pour Ferrari, c'est que ils ont l'air quand même un peu optimistes, alors peut-être que voilà, c'est la méthode Coué, mais ils ont l'air un peu optimistes sur ce qu'ils peuvent faire dans les prochaines semaines. Là où, et on va en parler, c'est que Red Bull, Verstappen a ramené les points. La voiture était très rapide, enfin était plutôt pas mal sur les trois premières courses. Mais là, en fait, à Bahreïn, on a l'impression que c'est la fin du monde et que ça va être la fin du monde, en fait, jusqu'à la fin de la saison, finalement. Mmh. Et là, on peut se demander est-ce que Red Bull est en mesure de ramener des points intéressants dans les prochaines semaines. Et vu les déclarations, j'ai pas l'impression.
Bah, on va ouvrir le dossier Red Bull parce qu'il s'est passé plein de choses là depuis notre débrief de lundi dernier. Max Verstappen notamment qui a beaucoup parlé dans la presse hollandaise, hein, il a balancé cette phrase: je ne fais que participer à ce championnat, je suis pas armé pour le titre. Christian Horner lui-même a concédé que certains des problèmes de l'année dernière sur la voiture étaient toujours présents et étaient loin d'être réglés. À côté de ça, il y a Helmut Marco qui arrête pas de dire moi je commence à flipper parce que j'ai peur que Verstappen se barre en fin de saison si on continue à manquer de performance. C'est vrai que lui, il y a quand même une donnée assez dingue. Verstappen l'an dernier, il avait gagné le Grand Prix de Bahreïn avec 25 secondes d'avance sur le premier non-pilote Red Bull. Cette année, la semaine dernière, il a terminé à plus de 34 secondes du vainqueur. Donc en termes de perfo, ils sont très loin et tu les sens un peu affolé là quand même.
Ouais, il y a les déclarations, comme tu le disais, de la patronnerie, comme j'aime bien dire, de Horner, Marco, rassure pas, tu vois. C'est souvent tus de langue de bois, tu arrondis un peu ce qu'a fait Fred Vasseur ce week-end en disant non, c'est pas la cata, on est quand même là, machin, voilà, tu vois, tu Là, clairement, on a lu des choses. Donc déjà, sur le fait que Verstappen puisse avoir envie de partir, ils sont clairement extrêmement inquiets. Et sur le côté performance, Marco ne rassure pas du tout. Quand Horner, lui aussi, un peu comme Vasseur, essaye de dire « Non, non, mais on pense avoir compris dans quelle direction fallait aller. Maintenant, il faut qu'on se bouge les fesses pour y aller plus vite. Mais en gros, c'est bon, maintenant, on va dans la bonne direction. On attend de voir. » Mais si ce n'est pas le cas, ça sera très, très compliqué. Et ils pourront peut-être perdre Verstappen et perdre bien plus. Après, peut-être qu'ils sont en train de préparer un moteur incroyable mais pour l'après. Mais oui, c'est une fin de règne assez incroyable. C'est vrai que quand tu redis les temps du Bahreïn 2024 et 2025, tu te dis, mais attends, ils n'ont pas pu perdre tout ça sur le reste quand tu sais l'avance qu'ils avaient, quoi. Ils ont quand même mis sur cette réglementation une dose à tout le monde au début, quoi.
Absolument.
C'était une hégémonie, quoi.
L'année où ça gagne tout sauf ouais, Singapour.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais c'est assez dingue. Il y a le risque de la trajectoire finalement similaire à l'an dernier. Le problème, c'est que l'an dernier, tu commences en étant tout en haut. Et là, tu ne commences pas tout en haut. Et t'as un Verstappen qui a l'air pas démotivé, mais bon, il a l'air un peu blasé. Et donc, le risque de la trajectoire, c'est qu'en fait, on a une voiture qui est OK. Et finalement, on voit qu'il y a des problèmes. On met peut-être un peu de temps à les identifier. Et on n'arrive pas à les régler. Parfois, on essaie de les régler avec de nouvelles pièces, mais qui ne fonctionnent pas du tout. On se rappelle de ce que disait Sergio Pérez l'an dernier. Et effectivement, c'est peut-être pour ça qu'ils sont vraiment pessimistes. Il y a Marco et Horner qui ont même parlé de problèmes structurels, c'est-à-dire qu'ils disent notre gros souci, c'est que la soufflerie qui date des années 70, OK, on l'a améliorée et tout, mais elle n'est pas du tout au niveau. Et en fait, on a dû utiliser finalement les quatre premières courses de la saison, enfin les premières courses de la saison pour comprendre l'aéro, alors que peut-être que les autres écuries comme McLaren, ça y est, ce travail, il a déjà été fait.
Ça, c'est inquiétant, ça. Parce que quand tu remets en cause les fondations, quand même, c'est jamais bon signe. Tiens, il y a des premières déclarations de Max Verstappen là, qui tombent, notamment sur les performances attendues là, ce week-end à Jeddah. Il dit « J'espère que ça va aller mieux que Bahreïn. Normalement, ça devrait être mieux. On sera un peu plus compétitif qu'au Japon et à Bahreïn. » Il dit aussi que le fait d'avoir des pneus plus tendres à Jeddah que l'année dernière, ça va rendre les choses un peu plus intéressantes sur la course. Par contre, il dit qu'ils essaient encore des choses sur la voiture en termes de réglage, qu'ils ont énormément de choses à améliorer, qu'ils ont des galères avec l'équilibre de la voiture, l'équilibre en entrée de virage, en milieu de virage,
en sortie de virage.
Non, il n'a pas dit ça. Il dit qu'il souffre avec les différents types d'asphalte et qu'à Bahreïn ça a été un enfer. Et il a répondu à une question sur son avenir aussi, où on lui a dit est-ce qu'il aurait la tentation de s'éloigner de Red Bull, et est-ce qu'un projet comme Ferrari, Aston ou Mercedes ça pourrait le tenter. Il a dit tout le monde en parle sauf moi. Voilà, je suis très détendu. Donc il a botté en touche. En
exactement gros. Ce que dirait un gars qui est en train de négocier avec tout le monde.
Non, mais après, c'est pas impossible. Non, il peut laisser ses agents, enfin son manager, faire le travail. Ou alors, lui, il a juste une idée. Peut-être qu'il sait déjà ce qu'il fera la fin de la saison. Et en fait, effectivement, il n'y pense plus. Pour lui, c'est réglé. Ouais. Mais ça, on ne sait pas.
En tout cas, quand il donne, Jules, les difficultés qu'ils ont sur la voiture, on le disait là, le problème structurel entre la soufflerie et l'équipe, difficulté d'équilibre, difficulté d'adhérence, ils ont énormément de soucis à régler, Red Bull.
Ah oui, non, mais là, c'est juste qu'en fait, la voiture, elle est mal née, alors elle peut, vu que Max Verstappen est un grand pilote, peut-être sans doute le meilleur actuellement, il peut tirer le potentiel maximum de la monoplace. Mais le problème, c'est que en fait, Marco et du coup la Verstappen insistent constamment sur le problème d'équilibre. C'est vraiment pareil pour les essais. Ils disent on va peut-être devoir travailler différemment, utiliser plus le moteur, mais en fait après un autre coup on va dire mais les freins il y a un problème. C'est en fait là pour Red Bull, il faut bien terminer cette séquence de course et en fait arriver en Europe avec de nouvelles idées, avoir mieux compris. Mais
je crois que les évolutions sont prévues pour l'Europe. Hein,
ah oui, de toute façon, ça va être indispensable. Hein, sinon, sinon, ça va vraiment devenir la carte.
Il a dit un truc intéressant aussi. Il a dit un truc intéressant, les gars. Il a dit j'ai énormément apprécié les années précédentes quand on était dominant.
Premier.
Mais ouais. Mais il dit maintenant, c'est agréable d'une certaine manière de vivre les défis qui sont là et d'essayer d'améliorer la situation. Il prend du plaisir, en gros, dans le fait que bah, c'est plus le numéro 1 avec la meilleure voiture et que bah, il doit essayer de bonifier ça, d'aller chercher des perfs. C'est vrai que s'il arrive à avoir des résultats cette année avec cette voiture-là, déjà ce qu'il a fait à Suzuka, c'est quand même monstrueux. On en a parlé, nous, dans le paddock RMC. Mais s'il arrive, je sais pas, à la mi-saison, à être encore dans le coup, oui, quand tu vois tout ce qui se passe encore, ça peut être le plus gros exploit de sa carrière là, Verstappen, hein.
Ouais, bah après, il est en tout cas dans la psychologie, il est très malin parce que c'est le meilleur moyen de ne pas devenir fou quand tu reviens d'un piédestal pareil, d'une avance pareille. Tu te dis, bon, bah j'essaye de retrouver un truc, un objectif dans ce qui est réalisable. Donc c'est malin dans sa tête. Je sais pas s'il le pense à 100% parce que je pense quand même qu'il est fait d'un bois où quand tu gagnes pas, ça te rend
Ouais, mais
fou. Mais
je
je
pense quand
comprends ce
même
qu'il
que
veut
tu
dire.
vois,
Je
voilà,
pense
moi aussi,
qu'il a
quand t'en as
postulé.
4,
Et
quand
ça,
t'en as 4, te dire que tu vas chercher des perfs alors que
exactement.
t'as pas la meilleure voiture, quand même,
Et
ça
je
peut
pense
t'asseoir aussi.
à l'intérieur de ça, quand il dit ça, je pense que le plaisir, il vient aussi justement du coup de fumer les autres en disant, tu vois, et
De
genre.
gagner des batailles en piste.
Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, genre, quand il dit, ouais, je serai dans la McLaren, je serai 20 secondes devant. C'est aussi dire, je t'ai battu avec mon tracteur, quoi.
Voilà, mais
Et
complètement.
donc,
Et c'est une
c'est pas un.
manière absolument incroyable de montrer que t'es le meilleur pilote du
Et
paddock.
quand t'as mis quatre championnats en poche, en banque, bah, tu t'es peut-être suffisamment gavé pour justement trouver complètement du plaisir et une nouvelle motivation dans le fait de juste aller ramener. Ce entre guillemets tracteur au devant de la grille quoi. C'est vrai que Suzuka on s'en est à peine remis.
Non mais surtout
Ah,
qu'en
c'est clair.
plus quand enfin être champion du monde avec une avance pas possible. Alors
Oui.
ils ont
Ça écrit pas ta légende. On dit que c'est la voiture.
oui mais après tout le monde l'a connu Hamilton, Schumi. Mais le truc en plus c'est que quand c'est Verstappen, alors pas l'an dernier mais quand c'est Verstappen, mais il a même pas un coéquipier pour challenger. Donc
Oui.
c'est vraiment il est en train de faire un contre-la-montre chaque week-end. Et bon bah juste de temps en temps il va dépasser les retardataires, peut-être une pole perdue par-ci par-là, mais du coup au premier virage c'est réglé. Bon, je peux comprendre que quand t'aimes la F1, que t'es vraiment un pilote automobile,
J'aime les
t'as envie
batailles en
de en
piste,
fait
quoi.
tu veux débattre en piste quoi,
Ouais.
tu veux pas faire du rallye quoi.
Il y a un truc, Jus, et on en parlait un peu lundi. Il y a quand même quelque chose, cette écurie Red Bull, on sait qu'elle se nourrit aussi du conflit. On a vu l'année dernière, que ce soit les guerres internes, Helmut Marko, Christian Horner, Jos Verstappen, le papa Verstappen. Voilà, ça les a pas empêchés, en tout cas, d'aller chercher le titre de champion du monde pilote. Malgré tout, moi je me pose une question, est-ce que ça peut continuer à tenir là? Quand ça fait quand même un an que tu es comme ça, un peu. Voilà, t'es sur un fil, t'es en mode funambule. Moi, je me dis qu'à un moment, ça va péter cette année, en fait,
Ouais,
avec des perfs qui sont pas au rendez-vous.
c'est pesant, c'est pesant. Alors forcément, il y a aussi, voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux par rapport à ce qui sort dans la presse, ou plutôt qu'est-ce qui est un peu déformé, amplifié. Mais à la longue, c'est pesant, c'est pas bon pour même les ingénieurs. Les ingénieurs, tout simplement, il y a quand même, va y avoir, j'allais dire 9 autres écuries, mais va bientôt, du coup, il y aura 10 autres écuries. Il y a du job à aller chercher ailleurs. Dans des environnements peut-être plus sains. C'est pas bon pour à la fois ceux qui sont à l'usine, ceux qui sont dans le garage. Ça ne peut que, comment dire, on ne peut pas tirer une énergie positive de quelque chose comme ça. Et ça l'est encore plus quand bah, la voiture ne fonctionne pas.
Je suis en train de lire les déclats encore de Max là, qui tombe là, de Verstappen. Ouais, il est tranquille sur cette conf de presse. Je sens qu'il a pas trop envie de parler, il a pas trop envie de prendre une petite amende de la FIA.
Oui, en plus.
Y a pas grand chose, y a pas grand
Ça
chose de
va être ça
dingue.
pendant toute l'année, de toute façon.
Ouais, mais d'habitude, il est pas trop en mode langue de bois. Là, tu sens que bon, il est conventionnel, on va dire, dans ses propos. Les gars, faut qu'on parle aussi du week-end de Lando Norris, là, de ce qu'il attend. Parce que lui, il a une semaine seulement, un peu pour, bah, j'ai envie de dire, pour prouver à son employeur, en fait, que c'est lui le principal candidat, quand même, pour ce titre de champion du monde. Il reste, malgré tout, leader du championnat. Mais c'est sûr que lui, après la semaine dernière, tout le monde s'interroge. S'il passe à côté là de cette course, ça fera quand même trois grands prix un peu plus difficiles pour lui. Et à la fin de ce triple header, il va se poser beaucoup de questions. Donc il n'a pas le choix, Norris, là, que de répondre présent en Arabie Saoudite.
Bah ouais, non, clairement, il a pas le choix. Il avait déjà pas trop le choix le week-end dernier et ça n'a pas été exceptionnel du tout. Et puis, enfin, c'est pour lui, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un de l'autre côté du garage qui attend pas, en fait. Donc, il est obligé, déjà en tant que pilote de F1 de base, en tant que pilote dans la meilleure voiture aussi, mais en plus parce qu'il a un mec à côté qui mangera tout cru dès que l'occasion se présente. Donc, il va falloir réagir très vite. Va falloir aussi que McLaren adapte dans ses stratégies, ses préférences et tout, parce qu'en fait ils vont passer l'année un peu comme ça à se demander à un moment s'il y a une seconde à faire gagner à Alain, à qui on l'a fait gagner, s'il y a un swap à faire, est-ce qu'on le fait, et ça c'est pas forcément bon. C'est pour ça que dans l'intérêt, on va dire, si j'étais actionnaire de McLaren, limite j'aimerais qu'il y en ait vraiment un des deux rapidement qui prenne le lead, comme ça après on fait all-in sur lui. Après, c'est vrai que pour nous, c'est plus il y a de la compète entre les deux et de l'indécision, de l'incertitude, ça va être top. Mais Norris, faut se réveiller vite.
Il n'y a pas eu trop de problèmes.
Non, ouais, pour l'instant,
je les trouve sous-jacents. Tu vois, je trouve qu'on les a pas vus, mais on les sent. Tu vois,
genre. Ah ouais, tu trouves?
Ouais, je me dis, j'ai cette sensation qu'ils ont encore du mal à trancher dans le vif, quoi. Tu vois?
Moi, en fait, oui, peut-être. Alors, peut-être de ce point de vue-là, moi, j'ai l'impression quand même que, en fait, les problèmes, c'est Norris, là, qui est seul face à ses démons et qui doit affronter ça, qui doit affronter sa voiture aussi. Juste, je sais pas ce que t'en penses, mais quand on voit encore la cool room, là, après le Grand Prix de Bahreïn, ils rigolent, les deux, et ils sont en mode pote. Tu vois, enfin, c'est pas une attitude de mecs qui ont envie de se crever pour aller chercher le titre pour l'instant. C'est pour ça que moi je suis un peu comme je me dis bon, c'est plutôt détente le début de saison, non?
Oui, non, ça va. Peut-être que les problèmes vont se poser plus en qualification pour savoir qui doit sortir en premier ou bénéficier de l'aspiration de l'autre. Bon, voilà. Mais pour l'instant, le souci, effectivement, c'est juste Norris, je trouve. C'est tout le monde, même si McLaren dit il n'y a pas numéro 1, numéro 2, bon, à un moment donné, tout le monde se dit le numéro 1, le leader de l'écurie, parce qu'il a l'expérience, qu'il a l'ancienneté, eh ben, c'est Norris. On se dit aussi, parce que quand même l'année dernière, il domine nettement Piastri en qualification. Donc on se dit, bon, bah voilà, là, il a la meilleure voiture, c'est le patron, il faut juste montrer ce qu'il sait faire. Et il n'y arrive pas. Et surtout, on pense quand même que c'est pas juste mental, c'est qu'aussi, même on se dit dans le pilotage, bah, il lui manque peut-être un truc. Mine de rien, en qualif, quand il fait sixième, bah, il est super loin. Donc, c'est juste ça montre qu'il est pas assez rapide, ou peut-être que Piastri l'a dépassé aussi. Peut-être que lui, il est au même niveau, en fait, et que Piastri est devenu vraiment super fort. Pour moi, c'est Norris le souci. Il y a que 3 points. D'écart au championnat du monde, donc évidemment si là il y a une inversion, on va forcément lever le sourcil. Ceci dit, ça peut être une saison aussi où ça fait un yo-yo entre les deux, attention, il peut y avoir
c'est possible,
c'est ça, il peut y avoir
ça
des
peut être très sympa pour nous.
L'autre, voilà.
Bah, dans la théorie du problème mental, ça peut arriver aussi, tu vois, il suffit que qu'il ait un déclic et du coup il se remet dans le jeu et là t'as le yo-yo toute l'année. S'il y a un peu plus que ça, comme ce que tu disais, Jus, c'est-à-dire que en fait, tout simplement au niveau des performances, l'autre est passé devant, Piastri. Bah là, il y aura peut-être pas de yo-yo.
Et alors peut-être aussi qu'on est un peu dur avec Norris, c'est que tout simplement il avait un week-end sans.
Possible aussi.
Moi, j'y crois pas trop, mais c'est possible.
Non, parce qu'il a même fait des déclarations comme quoi c'était un petit peu plus que ça, qu'il n'était pas à l'aise dans cette voiture, qu'il n'était pas épanoui. Là, il y a un truc qui vit personnellement, que ça soit dans sa vie privée ou sa vie pro, peut-être son nouveau statut, peut-être la pression d'être le contender numéro un, tu vois. Enfin, tout ça, peut-être, mais en tout cas, il y a un grain de sable dans sa chaussure, ça c'est clair.
Bah, il dit qu'il n'a pas un super feeling avec la voiture, et il dit même qu'il est ultra surpris d'avoir réussi à avoir fait 4 podiums sur les 4 premières courses, tellement il n'est pas en phase avec sa machine.
C'est vrai que c'est pas impossible que la voiture, que Piastri soit finalement plus polyvalent, qu'il arrive complètement à faire corps avec la monoplace, alors que Norris a besoin de réglages un peu plus spécifiques. Depuis la nuit des temps, il y a des pilotes qui, effectivement, je sais pas, ils aiment plus le survirage ou autre. Et,
bien sûr. Ouais.
Et dès qu'on leur donne pas la voiture qu'il faut, bah, il leur faut un peu plus de temps, quoi.
On est tous d'accord pour dire que McLaren va être encore au-dessus ce week-end, normalement.
Ah, normalement,
enfin,
oui.
Ah oui, je vois. Je vois. Enfin, là, moins que... là, je serais vraiment surpris. Je sais que je me plante tous les week-ends, mais je serais que là, franchement, quand même, celle-là, elle me surprendrait.
À moins d'une surprise de Mercedes. Bah,
George Russell, mais... peut-être, en voilà, qualif, qui ça. Arrive à. Mercedes, ouais. Peut-être. Antonelli, hein. Mais bon. Ouais. Les gars, je voulais vous entendre aussi sur Haas. Haas qui a 20 points, Esteban Ocon 14 points, Oli Berman 6 points. Haas qui fait une saison. C'est très bizarre parce
oui,
que
c'est très étrange.
Non, mais on les sentait très bien dans l'essai. On était ultra optimiste en Australie, au fin fond du fait-tout. On s'est dit, voilà, c'est dramatique.
En Australie, deuxième... c'était les Williams d'il y a 4 ans, quoi. C'était vraiment affreux, quoi.
Ouais. Deuxième course, tu te dis, tu sais pas. En Chine, Ocon, il arrive à faire. C'est en Chine qu'il arrive à faire une perf extraordinaire. Ouais. Oui, c'était la deuxième course où il arrive à sortir de nulle part. Et puis au final, il se retrouve cinquième au classement là, devant le reste du monde, à un point devant Williams, devant Aston, devant Racing Bull, devant Alpine et devant Sauber. Le début de saison, au final, il est positif avec une line-up de pilotes, Jus. Qu'on annonçait ultra performante et qui nous intriguait et qui répond présent.
C'est déjà effectivement les pilotes ça s'améliorait. Bon, Hülkenberg, Magnussen c'était pas nul hein, attention. Mais non. Là Ocon c'est un autre niveau et Berman bon on comprend aussi pourquoi. Enfin on l'avait déjà vu de toute façon c'est pas une surprise mais on comprend pourquoi c'est un pilote Ferrari. Alors il a eu des problèmes mais c'est des problèmes de rookie on va dire. Et puis aussi parce que bon, tout simplement, quand on pousse avec une voiture qui n'est pas au top du top, ça, on commet plus d'erreurs forcément. Après, j'ai toujours moi des réserves sur la façon dont Haas gère ses courses. Mais bon, pour l'instant, ça se goupille bien.
C'est-à-dire dans la stratégie.
Sur la stratégie. Mais ça va quand même nettement mieux par rapport à l'époque où finalement c'était Gunther Steiner. Alors attention, ce n'est pas Gunther Steiner qui faisait la stratégie, hein, mais... on va dire que en fait l'écurie a l'air beaucoup plus organisée, beaucoup plus pro.
Mais là où je les trouve intelligents, tu vois, pour le coup dans leur strat, c'est que déjà ils tentent des choses différentes entre les deux voitures, donc et ils arrivent à emmagasiner pas mal d'infos en fonction de qui fait une bonne perf le week-end, tu vois, pour le remettre sur la voiture de l'autre le week-end qui suit. Et sur ça, je les ai trouvés pas mal. En Chine, c'est ce qui s'est passé avec Ocon, avec une stratégie ultra agressive qui a réussi à bien marcher. Ce week-end également, tu vois. Donc moi, je trouve qu'ils sont pas si mauvais que ça dans leur gestion.
Parfois je suis dubitatif, mais après il y a aussi des choses qu'ils voient sur la piste qu'on ne voit pas forcément nous à la télé. Mais de toute façon, les résultats montrent que Haas travaille bien finalement.
Après, il y avait Oli Berman d'ailleurs là en conf et il dit un truc très juste, Louis, cette année. Il dit c'est assez dingue parce que cette saison tout le monde se rapproche du plafond max de la réglementation actuelle. Et il dit faut être vraiment à fond à chaque tour parce que si tu rates un tour ou si tu te trompes un petit peu dans les réglages, dans l'équilibre de ta voiture, tu te retrouves en fait 20e. Et il dit c'est peut-être ce qui nous est arrivé sur une ou deux courses où on a mal développé la voiture, on a mal anticipé certains trucs. Au final, on n'était pas si loin des autres, mais la moindre petite erreur là, tu la payes cash et tu te retrouves très très loin au fond de la grille, quoi.
De toute façon, je crois qu'on est dans les records de l'histoire, hein, au niveau des temps hyper resserrés entre le premier et le 20e. C'est assez dingue de voir que maintenant, il y a des qualifs, je crois, où pour 6 dixièmes, tu pouvais perdre 10 ou 15 places. Enfin, un truc, genre en début de réglementation, 6 dixièmes, tu perds pas de place, limite, ou deux max, quoi. Et là, tu peux dégringoler de la grille. Et d'ailleurs, ça donne des qualifs où il y a souvent, on va dire, entre guillemets, une grosse voiture qui se retrouve un peu piégée en Q1. Parce que comme tout se joue à des dixièmes, les grosses voitures, les grands pilotes, ils se ratent aussi parfois. Et du coup, ça donne pas le droit à l'erreur. Et ça rend quand même les qualifs de cette année particulières, quoi. Tu sais même pas si les McLaren vont être devant. Alors, tu te dis que c'est quand même elles qui ont bien évidemment le plus de chance. Mais tu regardes quand même, les samedis après-midi, depuis le début de saison, je les trouve quand même assez palpitants. Parce que ça va un peu dans tous les sens. Que ça soit dès la Q1, tu sais pas trop qui va être dans le panier des 5 derniers, là. Avant, tu pouvais presque dire, allez, les deux Sauber, les deux Williams, sauf 3 fois par an Albon qui s'en sort, et puis un cinquième. Maintenant, ça peut être du Haas quand il se rate, du Alpine pas mal malheureusement. On a eu le deuxième de chez Red Bull qui se retrouve dans le panier du fond comme ça. On a beau le changer, Tsunoda fait un peu mieux. C'est ce dont on rêve. Ce qui serait encore mieux, c'est que ça englobe aussi McLaren et que on sache pas qui va gagner le dimanche. Ça serait la quintessence. On a presque atteint la perfection sur la compétitivité. Ah,
mais c'est sûr que l'interdiction de l'erreur, tu le vois aussi un peu le dimanche quand au moment où on voit l'arrivée, il y a souvent, même s'il peut y avoir des safety car ou autre, on voit par exemple un petit groupe qui arrive pour la 14e place et tout le monde se suit. 14, 15e, 16e, c'est ultra resserré. Ce qui, à certaines époques, non, il n'y avait pas. À la fin, tout le monde est genre à 3 secondes. Il y a 3 secondes d'écart minimum entre chaque voiture. Ouais. Bon,
Même dans le nombre des drapeaux bleus, je n'ai pas regardé les chiffres. Il faudrait que je regarde la différence peut-être entre il y a quelques saisons et celle-là.
Mais c'est vrai, tu as raison, on ne voit pas.
Il y a très, très
peu. Le dimanche, on ne les voit pas.
Bah ouais, je crois que le week-end dernier, ils sont un ou deux maximum, je crois. Tu vois, début de réglementation, vers
30e tour, il y avait déjà.
Vers sa peine premier stint, il était déjà en train de klaxonner tout le monde, tu vois. Donc là, c'est sûr.
Tout le monde indicateur, ouais.
Tu sais que là, je suis en train de lire une déclat de Pierre Gasly qui est passé devant les médias là, à Jeddah. Et il valide un peu tout ce qu'on est en train de dire. C'est même les pilotes, en fait, ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. Et il dit franchement, en début de saison, lors des essais, notre voiture, elle fonctionnait bien. Début de saison, on arrive, on manque de perf. Et là, tu sais pas pourquoi, la semaine dernière, on arrive à se hisser en Q3, alors qu'on n'a pas changé fondamentalement les choses. On se hisse en Q3 et on va chercher la 7e place en course.
Je pense que les écarts sont si resserrés, ça oblige en fait à ce que vraiment chaque configuration à chaque week-end soit parfaite, enfin en tout cas soit optimale. Parce que sinon, s'il y a un loupé, tu joues la 18e place.
Pierre a dit que ça allait être difficile à Jeddah d'ailleurs.
Ouais, parce qu'il y a les sober quand même.
Ouais, mais je pense que quand Pierre dit ça, c'est aussi parce que c'est nouveau pour eux. Ils ont alors peut-être dans les catégories inférieures, mais ils ont peut-être eu le temps de l'oublier un peu. Mais en F1, on est quasiment sur de l'inédit, quoi. C'est assez fou. Donc c'est sûr que ta voiture, si tu te rates ou même si tu te rates pas, mais que tu mets pas tout dans l'ordre sur ton tour. Ce que disait Charles, il dit moi j'ai fait un tour en un moment où j'ai vraiment tout mis et je pense que je suis allé plus vite que la voiture, il disait, ou quasiment. Et c'est ça en fait, c'est qu'il va falloir être à 110% voiture et pilote sur un tour de qualif, sinon tu peux avoir de grandes déconvenues, comme disait Aimé Jacquet.
Et c'est là où la particularité du tracé, franchement, pèse beaucoup et joue beaucoup dans les différents résultats.
Celui-là, il va être.
Depuis le début de saison.
Les murs et tout. Donc, ça va être. Il peut y avoir de la safety ou des gros crashs en qualif.
Franchement, je vois pas comment on peut pas y avoir de safety. Même si on a aussi, ça souligne, hein, David.
Ouais,
C'est propre. On n'a pas de pilote complètement à l'ouest. Pu avoir avec Mazépine, par exemple.
Latifi, et c'est ce que disait, disait ça après le Grand Prix du Japon, où il disait, c'était peut-être pas le Grand Prix le plus spectaculaire sur le papier, mais par contre, tous les pilotes ont été au maximum de leurs possibilités, t'as eu aucune erreur, et c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir apprécier dans le sport automobile. Petit prono, les gars, pour ce week-end. Allez, Piastri. On se lance. Piastri.
Moi je sais plus, donc j'en ai marre de faire des pronos. j'avais dit Verstappen dimanche dernier pour te dire comment je suis. Donc là, je vais la jouer plat du pied sécurité. Je fais comme Julien. Voilà, maintenant je copie les
terrible.
Autres. Voilà, désolé Julien, mais ça sera Piastri pour moi aussi.
Est-ce qu'on voit qui là sur le podium pour compléter avec la McLaren là? Petite Ferrari, non,
Le premier podium de Ferrari. Tu sais que là, c'est encore le cœur qui a repris
voix. Je sais que t'es pas lucide, mais quand tu vois les datas, Ferrari est plus lent à la même époque que l'an dernier. Hein. Dans tous les datas qu'on a, donc c'est ça qui sont.
Croire à un truc un peu. C'est pas que c'est sans surprise, mais les deux McLaren sur le podium et une Mercedes, genre Russell, pour compléter.
Russell qui fait un super début de saison, mine de rien. Allez, moi je vois bien un petit Frenchie dans les poids encore là quand même, ce week-end.
Ah oui. Isaac, on n'en a pas trop parlé, mais très compliqué son week-end, hein, mine de rien.
Oui,
il l'avait pressenti.
Il a galéré au début, c'est ce que disait Laurent Mekies, il a galéré au début et ensuite, en plus, leur stratégie a été,
a été complètement détruite par la safety car. Donc,
Typiquement, une écurie qui prouve que quand tu mets pas tout bout à bout, ça va plus du tout, c'est eux, parce que pour le moment, depuis le début, c'était assez solide. On disait même, on blaguait même, ouais, Verstappen, s'il est dans la Racing Bull, oui, il gagne des courses. Et là, tout s'est déréglé. Peut-être que Isaac, il l'avait dit, moi, ce qui me fait un peu peur ce week-end-là, c'est qu'en fait, ça va être le premier Grand Prix de la saison où il va falloir gérer vraiment la dégradation. Et moi, je découvre un peu. Peut-être qu'il y a eu un peu de ça. Peut-être qu'il y a eu des erreurs de réglage, des erreurs de strat. Enfin, tout ça a fait qu'à la fin, course a oublié.
Mais il a été bon, Isaac, parce que là, il était en conf de presse, là aussi. Bah, il était bon. Dans la session avant Verstappen. Mais non, mais il a vanné la presse un peu sur les ceintures trop serrées et tout ça. Il a dit que, on lui a posé la question, qu'est-ce que t'as appris en 4 courses? Il a dit, j'ai appris à éviter les lignes blanches. Petite référence à son accident, tu vois, au tour de formation en Australie. Et non, il a dit quand même un truc. Je pense que c'est pour ça que ce week-end, on peut s'attendre à avoir un Hadjar un peu mieux que le week-end dernier. Il a dit que Bahreïn faisait figure d'exception en termes de température et d'adhérence, quoi. Ouais. Donc il dit franchement, on s'attend à un week-end beaucoup mieux à Jeddah. Donc peut-être que Isaac va encore faire une belle perf et pourquoi pas essayer de matcher pour une place en Q3. Samedi en qualif. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé le week-end dernier. Après, encore une fois, on parlait de l'enchaînement là, du triple header. Quand tu es un rookie comme ça et que tu enchaînes 3 courses en 3 semaines, tu dois être lessivé. À l'influx nerveux que tu laisses, ça doit être d'une difficulté.
Ouais, parce que même si, quand tu fais beaucoup de simulateurs et tout, on t'entraîne un peu à encaisser des longs relais, enfin, je veux dire, un sacré nombre de tours sur la semaine. Oui, non, c'est de la découverte et c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Parce que même si il a la qualité pour, il faut prendre en compte l'aspect mental. Il est en train de découvrir.
Ouais, c'est ça. La découverte, c'est tu fatigues. Tu commences un nouveau boulot, t'es plus concentré, t'es ceci. Ça te fatigue plus le soir. Alors que quand tu maîtrises ton taf, tu le fais de manière plus détendue et t'es moins fatigué. Donc c'est clair qu'il faut prendre ça en compte aussi.
Juste parfois sur des circuits qu'il ne connaît pas. Hein, donc.
Il va en découvrir quelques-uns. Donc oui, c'est sûr.
J'ai envie de tenter un pari de folie, mais je sais pas lequel. Mais je sens qu'il va se passer une dinguerie ce week-end.
Ah ouais? Moi, pour le coup, je suis vraiment jus en mode. Je pense que ça m'étonnerait pas qu'il y ait un podium, on va dire, somme toute classique.
Ah, tu penses qu'on va s'en kikiner, quoi?
Ouais,
je pense qu'on va s'ennuyer.
Non, pas forcément, mais que, à la fin, quand on regarde la liste d'arrivée, finalement, tout est rentré dans l'ordre.
McLaren 1 et 2, Sauber 19-20, tout est rentré dans l'ordre.
Les gars, stat à vérifier que j'ai lu, je l'ai plus sous les yeux, mais je crois que ça fait 5 courses d'affilée que le poleman s'impose, et je crois que ce n'est plus arrivé depuis 2 ou 3 ans en Formule 1.
Mais cette série, je l'ai plus en tête, mais quelqu'un a dit dans le paddock que ça pourrait être une saison à pole position en fait. La pole, tu fais la moitié du travail encore plus que d'habitude, quoi.
Pour l'instant, ça en prend le chemin. Bon, on va voir tout ça et on débriefe tout ça lundi. Merci beaucoup, les gars. Je vous rappelle que vous pouvez nous donner une petite note sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de téléchargement, surtout. C'est le plus important. Ça nous permet de continuer à vous proposer des tas d'épisodes du Paddock RMC. À lundi, débrief de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et après, on posera quelques jours parce qu'on est rincés, nous aussi. Il y a trop de Formule 1 là depuis 3 semaines. On retrouve Jean-Luc Roy dès lundi. Bye bye, ciao.
Ciao.
Le paddock RMC.